Voilà, on va prendre notre message pour ce matin qui se trouve dans Philippiens 3, 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. Là, je prends seulement une expression que Paul emploie. Donc Philippiens chapitre 3 verset 10, dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » C'est non pas qu'il ait un doute sur sa résurrection, mais qu'il y a une démarche là. Il dit, c'est d'abord connaître Christ, rencontrer Christ, et ensuite c'est découvrir la puissance de sa résurrection. Et l'apôtre Paul aspire à cela. Avant de continuer avec la parole, nous voulons encore une fois parler au Seigneur et lui demander de nous guider, de nous conduire. Père Céleste, nous avons vu comment tu as parlé aux disciples. Tu as parlé aux femmes et tu les as rassurées. Ensuite, tu es allé voir ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, tu les as rassurés. Ensuite, tu as apparu à Pierre tout seul parce qu'il t'avait renié et peut-être qu'il se demandait s'il pouvait encore être disciple. Mais tu as été vers lui pour lui dire « Non, non, tu es toujours mon disciple, je compte sur toi. » Et puis ensuite, tu es apparu au milieu des 10 dans la chambre haute et tu les as rassurés. Tu as essayé de leur convaincre que tu n'étais pas un esprit, que tu étais réellement, c'était un corps nouveau. Et puis Seigneur, nous savons qu'une semaine plus tard, tu rassureras Thomas. Puis tu retrouveras les disciples sur les berges de la mer de Galilée, tu les rassembleras. Et pendant une quarantaine de jours, là, tu vas rassembler tes disciples pour que, au jour de ton ascension, il y aura plus de 500 présents. Le bon berger qui rassemble ses brebis. Seigneur, à qui irions-nous? Mais comme tu as paru si faible dans les évangiles, mais maintenant tu es dans ta puissance et dans la gloire, et nous voulons connaître la puissance de ta résurrection dans nos vies. Cette œuvre de transformation. Seigneur, veuille nous conduire dans notre réflexion ce matin. Nous allons prendre des choses simples, nous allons essayer d'être terre à terre, parce que c'est là où nous vivons, mais parler des choses extraordinaires. Père, conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de sa résurrection. La première chose que nous voulons voir, c'est la réalité de la résurrection de Christ. Vous savez, c'est quand on parle de résurrection de nos jours, vous descendez sur le bord de mer et puis vous abordez quelqu'un, vous dites « Est-ce que vous croyez à la résurrection ?» et vous regardez bizarrement. Hein. Parce que ce n'est pas un concept qui court les rues. Tout le monde a entendu le mot, mais personne n'y croit. En tous les cas, c'est l'impression qu'ils essaient de donner. Mais vous savez, quand on va parler de la puissance de la résurrection, déjà, il faudrait que la résurrection soit un fait réel, qu'il soit réellement ressuscité. Sinon, on ne peut pas parler de la puissance de la résurrection. Et vous savez, pour pas mal de raisons, les différents groupes, eh bien, essaye de nier la résurrection de Christ. Déjà tout de suite, à peine était-il ressuscité, hein, vous vous souvenez, ceux qui gardaient le sépulcre, tout d'un coup, ils sont rentrés en ville, ils ont dit, il y a un ange qui est venu, et puis Jésus n'était plus. Hein. On a regardé, c'est pas qu'il a ouvert la tombe pour le libérer. Il a ouvert la tombe pour qu'on voit que c'était vide, il était déjà sorti. Et là, les Juifs, ils ont dit, non, écoutez, ne dites pas qu'il est ressuscité. Ça, il ne faut pas le dire. N'importe comment, vous vous débrouillez, on vous donne de l'argent, on fait n'importe quoi, mais vous dites que les disciples l'ont volé. Parce que pour eux, Jésus allait dorénavant être le pendu, celui qui a été crucifié sur la croix, et dans le concept du peuple juif, celui qui est pendu au bois, eh bien, c'est un maudit. Hein. Et donc, voilà, si on laisse les choses comme ça, Jésus a été crucifié, et donc, c'est un maudit. Mais s'il est réellement ressuscité, si jamais on arrive à démontrer qu'il est ressuscité, après ça veut dire que nous, on a tous tort, et ça ne va pas. Donc, les hommes, des fois, nient la résurrection de Christ juste pour sauver leur honneur et leurs affirmations et leur position, ils cherchent leur intérêt. Peu importe s'ils ont raison ou tort, si c'est vrai ou c'est pas vrai, ce qu'il faut, c'est qu'on défend notre cause. Et on n'aime pas avoir tort. Hein, surtout nous, les hommes, hein, demander à nos épouses. On n'aime pas avoir tort. Alors, il y a les Juifs, déjà, ils refusaient. Et tout à l'heure, j'ai fait référence à l'apôtre Paul, qui a grandi dans ce contexte-là. Et pour lui, c'était pas possible que Jésus soit ressuscité. Après, il y a aussi l'apôtre Paul, vous souvenez, quand il est arrivé à Athènes, et il parlait. C'est des gens qui sont très ouverts, ouverts à toutes les nouvelles idées. Cet homme, il a des idées intéressantes. Là, il raconte autre chose. Tiens, on va l'écouter. Ils sont là en train de l'écouter tranquillement. Ils sont ouverts à toutes les nouvelles idées, peu importe d'où ça vient. Jusqu'au moment où il parle de résurrection. Tout d'un coup, bon. Hein, si vous ne le croyez pas, essayez-le aujourd'hui. Hein, vous discutez avec quelqu'un, vous discutez de soucoupe volante, vous discutez de n'importe quoi. Mais tout d'un coup, vous parlez de la résurrection. Tout d'un coup, hop, j'ai un rendez-vous. Il doit partir. C'est parce que pour eux, résurrection, c'est un concept qu'ils refusaient. N'importe comment. Je ne se pose même pas la question est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est possible, c'est pas possible. Non, ça, c'est fermé. Et nous rencontrons beaucoup de ces personnes encore aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont suggéré que les disciples avaient tellement désiré de voir Jésus ressuscité qu'à force de le désirer, finalement, ils ont eu un songe. Et ils l'ont vu ressusciter. Hein, et puis alors, combien il y a de sectes qui circulent basées sur un songe, sur un rêve. Quelqu'un a eu une apparition, il y a des choses qui se basent là-dessus. Mais c'est... Et donc, parce qu'ils l'ont désiré tellement, eh bien, ils l'ont réellement vu. Hein. Et il y a du vrai dans ces possibilités. Hein. C'est psychologiquement, c'est possible de désirer quelque chose au point qu'on croit vraiment le voir. Il y a aussi il y a un autre groupe de personnes, personnes assez importantes, qui, eux, c'est pas seulement qui refusent la résurrection, mais en plus, ils nient la crucifixion de Christ, carrément. Hein, ils disent qu'au moment où Jésus a été arrêté, eh bien, Dieu l'a transformé. Et finalement, c'est un disciple de Jésus qui a été crucifié. Et donc, Jésus n'est pas mort, mais il est monté directement au ciel. Ça, c'est une autre idée. Mais ce que vous voyez, c'est que l'être humain, il refuse de croire à la résurrection, et puis il invente toutes sortes de systèmes pour contourner la résurrection. Parce que si jamais on reconnaît la résurrection du Christ, on est obligé de... on reçoit Christ et toute la vie. Hein, tout le monde le sait, donc on fait toutes sortes de contorsions intellectuelles, psychiques et tout, pour essayer d'éviter la résurrection de Christ. Ce qu'on pourrait dire, une objection, cette objection de la part des Juifs, hein, qui disaient que bon, les disciples l'ont volé, c'est quand même difficile à croire. Parce que si ces gens, ils sont venus pendant qu'on dormait et ils ont pris le corps. Alors, s'ils les ont pris pendant que tu dormais, comment est-ce que tu sais que c'est les disciples qui l'ont pris? Hein? Vous savez, c'est difficile de raconter un mensonge qui est crédible. Euh, Et de plus, ce qu'on sait, nous, c'est que les disciples ne croyaient même pas à sa résurrection. Eux, ils tremblaient dans la chambre haute. Et il n'y avait que les femmes qui étaient assez courageuses pour aller à la tombe même. Et les disciples ne cherchaient même pas une résurrection. Pour eux, ils avaient tellement rêvé d'un roi et puis qu'eux, ils seraient des ministres et tout cela, que ce n'était pas rentré dans leur tête que Jésus allait réellement mourir et ressusciter. Ce n'était pas dans leur tête. Ce n'était pas possible. Ils n'étaient pas prêts à inventer quelque chose. Puis l'explication qui consiste à dire que les disciples ont déjà tellement désiré sa résurrection qu'ils ont, ils l'ont rêvé. Vous savez, vous lisez n'importe quel mouvement qui est basé sur une expérience particulière, ce qu'on voit toujours, c'est que ça prend du temps pour se développer. Hein, ce n'est pas la première génération. En général, c'est plus tard que ça se développe. Sur le coup, c'est difficile, il y a très peu de gens qui le croient. Et il faut répéter une histoire assez longtemps. Et à force de l'entendre, les gens finissent par dire peut-être. Puis après, on continue à raconter encore pendant quelques dizaines d'années. Puis les gens ils disent pourquoi pas. Et puis après, encore quelques dizaines d'années. Puis ils se disent ah oui, bah oui c'est vrai. Et c'est comme ça que se développent certaines idées et croyances. Mais dans le cas des disciples, 50 jours plus tard, 50 jours après sa résurrection, donc à Pentecôte, eh bien, ils sont tellement convaincus qu'ils sont prêts à se tenir dans la voie publique et risquer leur vie pour déclarer que Jésus-Christ est ressuscité. Il y a tout d'un coup, ils ont été convaincus et ils étaient prêts à mourir pour la cause. L'apôtre Pierre se lève dans Acte chapitre 2 et il dit « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Vous savez, les disciples, s'ils avaient voler le corps et l'avait caché quelque part pour faire croire. Vous savez, quand on sait que le corps de Jésus n'est vraiment pas ressuscité et puis tout ça c'est du mensonge, on n'est pas prêt à risquer sa vie. Eux, ils étaient prêts, ils sont tous morts en martyrs pour la cause. Quand tu sais qu'une chose n'est pas vraie, tu n'es pas prêt à mourir pour la chose. Quand tu es convaincu que c'est vrai, tu es prêt à mourir pour la chose. Et ses disciples étaient convaincus de la résurrection de Christ. Et l'apôtre Paul déclare lui-même dans 1 Corinthiens 15, il dit « Quand Jésus est monté dans la gloire, il a été vu par plus de 500 personnes. » Et il dit « Et la plupart sont encore vivants. » Ils sont là, c'est des témoins oculaires. Ils sont encore là, prêts à le certifier. Les évangiles n'ont pas été rédigés après que tout le monde soit mort et qu'il y en a un qui raconte. Non, non, quand ils ont rédigé le Nouveau Testament, les gens étaient encore vivants, beaucoup étaient encore vivants pour certifier, pour dire oui, nous, on était là. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et puis l'apôtre Paul dit, et il a paru même à moi, comme à l'avorton. Et l'apôtre Paul n'a aucun doute sur la résurrection de Christ. Pourtant, quand c'est arrivé, lui faisait partie de ceux qui n'y croyaient pas, qui était contre la résurrection de Christ, contre tous ceux qui suivaient Christ. Et c'est lui qui dira, le passage que nous avons lu tout à l'heure de Romains chapitre 1, c'est lui qui dit que Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection. L'apôtre Paul était croyant dans cette résurrection. Et il misait sa vie dessus. La résurrection est une réalité. Et je ne sais pas si dernièrement vous avez vu ces films qui viennent de sortir, le film Jésus, l'enquête, qui donne l'histoire d'un journaliste qui a douté de la résurrection, mais qui a fait une enquête et finalement est devenu croyant. Et c'est tellement bien fait que c'est même dans les cinémas français. Alors, vous vous rendez compte? Quand, encore, si c'était aux États-Unis, en Amérique, on dit « ouais, ben là, ça passe ». Mais ça, c'est en France. et des milliers de personnes sont passées le voir ça. La réalité de la résurrection de Christ, c'est une réalité, c'est un fait historique que Jésus est ressuscité. Même si on ne peut pas l'expliquer, même si c'est un miracle. Le mot miracle existe en français. Et si le mot miracle existe, c'est que ce genre de phénomène arrive. Hein, si on, il fallait trouver un mot qui exprime cela. Hein, donc les miracles, ça existe. Hein, donc il ne faut pas... et puis on parle de miraculé, on parle de... Quand on ne sait pas expliquer, on dit miraculé. Mais Jésus-Christ est réellement ressuscité. Mais bon, ça ne suffit pas de dire, bon d'accord, bon, il est ressuscité, alors, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ça, il y a une importance parce que ça a une portée. Et dans 1 Corinthiens 15, et si vous voulez regarder avec moi, dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul, là, je vous ai dit qu'il a fait toute une discussion sur ce sujet-là. Bah, certainement parce qu'il y avait certains qui doutaient ou certains qui semaient le doute à ce niveau-là. Et donc dans 1 Corinthiens 15, je vais lire les versets 14 à 18. Et l'apôtre Paul, il est prêt à discuter. C'est un gars qui est assez sûr de lui. Il est prêt à poser les questions difficiles. Hein, vous savez, quand la vérité n'a pas peur des questions. Le mensonge n'aime pas les questions. La tromperie n'aime pas les questions. Hein, je me rappelle, si avec mes parents, j'ai raconté une histoire, j'ai raconté un petit mensonge. Et alors... après, ils commencent à poser des questions. Parce que bon, ils ne sont pas si bêtes que ça, hein, les parents. Et alors, ils commencent à poser des questions. Et alors, parce que comme on n'aime pas les questions, alors je réponds, ah oui, mais tu n'as pas confiance en moi. Ce n'est pas une question de pas confiance. J'ai pas confiance en ce que tu viens de dire. Hein. Les mensonges n'aiment pas les questions. Mais la vérité, si on n'a rien à cacher, vas-y, pose des questions. Et l'apôtre Paul est prêt, il s'expose dans ce chapitre. Et au verset 14, il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi est vaine aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Il dit voilà. Bim. Voilà. Voilà l'enjeu. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection, Christ n'est pas ressuscité, eh bien, il n'y a rien. Il dit, je suis conscient de cela. Mais il dit par contre, hein, c'est là et il continue. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Hein. Par contre, s'il est ressuscité, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que ceux qui ont cru en lui, eh ben, ils ont la résurrection qui les attend. Et ça veut dire que les autres, ils auront des drôles d'explications à donner. Vous savez, la résurrection... C'est pas le genre de chose, ben, je crois ou je crois pas, ben, ça changera rien. Non, non, c'est la chose où on est confronté à cela. Et c'est pour ça que beaucoup l'aiment éviter la question. Mais il faut traiter avec. On ne peut pas le contourner. Tôt ou tard, il faudra faire face à cette réalité. Christ est ressuscité. Qu'est-ce que tu en as fait? Et Paul dit, Moi, je me suis rangé du côté de la résurrection et je veux connaître la puissance de la résurrection, ce qui était derrière cette résurrection. Ce n'est pas seulement le fait d'une résurrection. Déjà, quand je relisais, je crois dans mon culte personnel, c'était hier ou avant-hier, je lisais l'histoire de résurrection de Lazare. Et ce que je remarquais, c'est combien de gens sont venus de Jérusalem voir, ils ont vu Lazare, il est vraiment vivant, on était là à son enterrement, donc on sait qu'il est mort. Et le voilà vivant, c'est pas possible, il est encore là. Et tout ça. Il dit beaucoup crurent. Et même les pharisiens se sont dit mais si on continue comme ça, mais tout le monde va suivre Christ. Et ils sont même arrivés au point de penser et dire mais il faut qu'on tue Lazare. Parce que tant qu'il est vivant, ben on n'a aucune chance. Et ça, c'est Lazare ressuscité. C'est vraiment une chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même Jésus qui l'a. Il y avait des gens qui étaient là. Hein. Quand il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Alors qu'il était tout bandé, il ne pouvait même pas marcher, rien du tout, il est sorti quand même. Et c'est après d'être sorti qu'on l'a délié pour le libérer. Il y avait quand même une puissance là, quelque part. Ça ne s'explique pas par les lois naturelles. Hein? Et on est alors, quand Christ est sorti, alors qu'il n'y avait personne là pour ouvrir la tombe, ni pour invoquer quelque chose, oui, rien du tout, il est ressuscité. Vous savez, la résurrection, c'est une chose qui est difficile à croire, mais je crois que le premier dans la Bible que je trouve qui croit à la résurrection, c'était Abraham. Abraham, il savait que son fils Isaac devait vivre. Mais Dieu lui dit, écoute, tu vas le tuer. Tu vas l'offrir. Et il se dit, si Dieu dit de le faire, je vais le faire. Mais bon, après, il faudra qu'il le ressuscite. Hein, n'importe comment, hein, il faudra qu'il le ressuscite parce que je sais qu'Isaac doit vivre. Et c'est ça qu'il nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Il s'imaginait par une sorte de résurrection que Isaac réapparaîtrait des cendres. Il croyait à la résurrection. Job croyait à la résurrection. Si vous connaissez, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Job. Hein, si cet après-midi, si vous voulez, il y a du soleil. Hein, vous allez trouver un coin, pas dans le vent hein, parce qu'il est froid, mais un endroit au chaud. Et puis vous prenez le livre de Job, vous lisez le premier chapitre, le dernier chapitre par exemple si vous voulez. Dans le premier chapitre, vous voyez que Job, il a 7 fils et 3 filles. Et puis là, des milliers de chameaux et des milliers de bêtes et tout ça. Et vous gardez les chiffres, vous les marquez sur un petit papier, là, combien il a de chameaux, combien il a de ceci, cela. Vous marquez tout cela. En plus, vous voyez au chapitre 2, il perd tout. Il perd tout son bétail et son cheptel, et il perd même ses enfants. Après, vous allez au dernier chapitre, là, et vous comparez les chiffres. Et vous allez trouver que Dieu lui rend le double de tout. De tout ce qu'il avait avant, Dieu lui rend le double. Sauf les enfants. Il a 7 fils et 3 filles. Pourquoi le double pour tout le reste et puis pour les enfants, il ne donne pas le double? Parce que les premiers, peut-être ils sont morts, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Ce sont toujours ses fils. Job croit qu'il y a la vie après la mort. Et donc il n'y a pas besoin de doubler. Les animaux, c'est terminé. Quand ils meurent, c'est terminé. Donc il fallait doubler. Mais pour les enfants, il ne fallait pas doubler. On ajoute juste, on refait le compte, parce que ça fait le double. Job, la résurrection, elle est là. Vous avez aussi David. David, il avait son fils qui était très malade, et pendant toute la maladie de son fils, il jeûnait, priait, tout cela. Et puis finalement, le fils, il est mort quand même. Et David, il se lève, il dit, je suis prêt à manger. Et les gens, ils ne comprennent rien. Alors, quand il était malade, il ne mangeait pas, et maintenant qu'il est mort, il se lève. Et il nous dit dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 23, David répond, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui. Mais il ne reviendra pas vers moi. David croyait à la résurrection. Croyait, il dit, non, d'accord. Bon, il est parti. Eh bien, très bien, je le rejoindrai. C'est pas lui qui va me rejoindre, c'est moi qui vais le rejoindre. Vous savez, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et juste avant que Jésus ressuscite Lazare, j'étais en train de discuter avec Marthe, et Marthe qui venait de lui dire, si tu avais été là, il ne serait pas mort. C'est un peu ta faute. On dit des choses un peu de ce genre, hein, de Dieu. Et Jésus dit, Marthe, je te dis quelque chose. Je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ah, ça c'est la question. Jésus peut dire, je suis la résurrection de la vie. Mais après il ajoute, parce qu'on ne peut pas, c'est pas juste un fait divers, c'est une réalité. Il dit, crois-tu cela? Et c'est une question qu'il pourrait nous poser à chacun d'entre nous. C'est-à-dire, résurrection, oui, mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais ? Hein ? Abraham le croyait, Job y croyait, David y croyait, Marthe a cru. Et Steve, qu'est-ce qu'il en fait ? Et Paul, et Jean, et Marie, qu'est-ce qu'ils en font ? On ne peut pas rester neutre. Il faut réagir. Soit on essaye de ne pas y penser, c'est une manière d'agir, mais ce n'est pas pour ça que ça s'éloigne. Hein. Je fais face. Troisièmement, la puissance de la résurrection de Christ. Où est-ce qu'elle agit, cette puissance ? Vous savez, l'apôtre Paul discutait avec Timothée. Timothée, c'était un jeune croyant, il avait marché avec Paul, et tant qu'il était à l'ombre de l'apôtre Paul, tout allait bien. Mais quand il s'est retrouvé seul dans une église, au loin, les problèmes, les difficultés, les questions, tout ça, puis, il commençait à être un peu découragé, donc Paul lui écrit une lettre, une deuxième lettre aussi, hein, pour l'encourager. Il était à Éphèse, et comme il nous dit dans Apocalypse, il nous dit... Éphèse, c'est une église qui était pleine d'amour, mais quand il arrive à l'époque de l'Apocalypse, il dit que c'est une église qui a perdu son premier amour. Et comme elle a perdu son premier amour, vous savez, les chrétiens qui ne sont pas bouillonnants comme ils l'étaient à une certaine époque, ça commence à créer des problèmes dans une église si on en a trop. Hein, ça bouillonne. Et Timothée, il ne savait plus quoi faire. Et l'apôtre Paul lui parle pour l'encourager. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 13, voilà ce que dit l'apôtre Paul pour l'encourager. Il dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. » Il dit ça, c'est « n'oublie pas, ressuscité des morts. » Ça le démarque de tous les autres. Selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il dit, moi j'y crois et je suis prêt à être malmené, mais j'y crois. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous renions, il nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc n'importe comment, dans tout cela, il dit, Jésus-Christ, c'est celui qui est fort. Lui, il bouge pas. Les hommes, il y a ceux qui... critique. Il y a les chrétiens qui ne sont pas tout ce qu'ils devraient être. Tout ça, c'est du vrai. Mais il dit, mais Jésus, Dieu, il est fidèle. Et Jésus-Christ, c'est celui qui a été ressuscité. Il dit, c'est ton repère. Hein, c'est ce rocher auquel tu fais référence toujours. C'est cette réalité. Reviens toujours à cela. Si tu as les yeux trop sur les gens... sur la mer et les vagues et les courants, tu vas te perdre. Mais si tu gardes les yeux fixés sur la boussole et sur le nord, tu vas te retrouver dans cette mer agitée. Et nous sommes dans une mer agitée, dans notre monde. Ça bouge dans tous les sens. Et ceux en qui on avait confiance, on n'a plus confiance. Et on ne sait plus. On ne sait plus, on n'a plus... Tout le monde tire la couverture de leur côté. Et il dit, il faut que je me batte, il faut que moi aussi je tire, et comme eux, sinon je ne vais pas m'en sortir. Ça, c'est un gros problème. Et je comprends les gens du monde, et je comprends combien ils sont perturbés, et combien ils sont... Tout ça, je comprends leurs problèmes. Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Mais quand on a Jésus-Christ, alors là, on a une boussole qui nous indique le nord, peu importe si on voit le soleil ou on ne voit pas le soleil, peu importe si la mer est agitée, peu importe la direction du courant et des vents et tout cela, mais le nord, il est toujours au même endroit. Et la Bible est notre boussole. Jésus-Christ est ressuscité. Dieu est fidèle. Avec ça, je peux aller très loin. Et cette puissance de la résurrection qu'on a vue s'exprimer au travers de Christ, cette puissance-là, ce n'est pas une force inerte, comme la pesanteur. La pesanteur, elle est là. Hein. Et puis quand je tombe du troisième étage, je comprends qu'elle est là. Mais cette puissance, c'est une puissance intelligente, active. La puissance de la résurrection de Christ, c'est une puissance qui peut agir et transformer. Pourquoi ? Parce qu'elle est animée par une personne, pas par des lois naturelles, mais c'est une personne qui est derrière. Et c'est pour ça que moi, en tant que personne, cette puissance, j'en ai besoin. Les lois de la nature, parfois elles me servent, parfois elles me sont contraires. Et j'y peux rien. J'ai subi comme je m'en sers. Mais quand il s'agit de la puissance de la résurrection de Christ, alors là, c'est une œuvre qui cherche mon intérêt et une œuvre transformatrice dans ma vie. Et qui me permet de lever la tête quand il n'y a aucune raison pour lever la tête. Croire en la résurrection de Christ, c'est le choix d'un principe de vie qui impose un mode de vie. Quand je crois à la résurrection de Christ, je ne peux plus vivre de la même manière. Je ne vois plus les choses de la même manière. Vous savez, l'agriculteur, c'est un homme de foi. Il prend ce grain qu'il a semé et en automne, il le met en terre et puis il n'y a plus rien qui y arrive. Il ne voit plus rien pendant des mois. Rien ne bouge. Mais l'agriculteur, il n'est pas là en train de regarder, de dire, oh, ça va marcher, ça ne va pas marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va monter, ça ne va pas monter. Si ça ne monte pas, moi je suis cuit, hein. J'aurai la banque sur le dos, tout. Non, non. Lui, pendant tous ces mois où rien ne se passe, lui, il est en train de réparer ses machines, il est en train de mettre en place tout pour la récolte. Parce qu'il le croit. Il croit que cette semence qui est semée, eh bien, elle prendra vie et lui apportera un fruit. Eh bien, de la même manière, c'est la foi d'un agriculteur, je l'applique à Jésus-Christ qui est une semence vivante. Et qui a été semé dans la terre et qui est resté là 3 jours et qui est sorti vivant, eh bien moi je compte dessus et je me prépare alors que je suis sur terre et un jour suit l'autre, tous les 24 heures sont pareilles, mais moi je fais des projets pour l'éternité parce que j'y crois. Comme l'agriculteur prépare ses machines pour la récolte, il n'attend pas que la récolte soit venue puis il dit « Oh bon là, il faut du matériel ». Non, non, il est tout prêt quand ça arrive. Eh bien, pareillement, le jour de la récolte, quand Jésus-Christ viendra pour prendre ses enfants, eh bien, je veux être prêt. Parce que je crois en la puissance de la résurrection de Christ. Cette puissance qui a ressuscité Christ, c'est la puissance qui nous ressuscitera. Et c'est cette puissance-là qui nous anime chaque jour. Et nous permet de regarder au travers ce qui arrive. Moi, je ne vous dis pas que ce monde, tout va bien, tout est beau, tout est joli. Ah, bon, il y a des belles choses, oui, mais c'est sûr. Mais c'est, l'avenir n'est pas là. Hein. Mais l'avenir est en Jésus-Christ. L'avenir est en Jésus-Christ. Et encore, nous, en France, on est un peu gâtés, hein, on a la liberté, tout ça. Mais quand je parle avec mes frères en Algérie, je parle avec mes frères de certains autres pays, c'est... pour eux, la résurrection, ben c'est ça qui leur permet de chaque jour de vivre. Ce matin, j'ai reçu des textos des frères d'Algérie. Ils disent « Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas le droit d'aller à l'église. On a fermé son église. On a fermé tout ça. » Il dit « Jésus-Christ est vivant. » Je reçois un mot d'un frère responsable d'un groupe en Tunisie. Il dit « Il est réellement ressuscité. » J'y crois, ça change tout. Et pour nous, nos problèmes sont autres que les leurs. Mais on a tous besoin de s'appuyer sur la résurrection, la puissance de la résurrection de Christ. Et c'est ça qui fera la différence. Que je sois chrétien depuis peu de temps, que j'ai eu des hauts et des bas, ou que je sois depuis longtemps, c'est la même puissance. Pour nous, on est tous faibles, mais on est forts en Jésus-Christ. À lui toute la gloire et l'honneur. Nous allons prendre quelques moments de silence. Je vais vous donner l'opportunité de quelles que pu être les pensées que vous avez eues, qui ont été stimulées pendant ce moment, et que vous puissiez vite faire une petite prière au Seigneur, lui dire: Seigneur, écoute, je t'ai entendu sur ce sujet-là, et je vais t'en parler un peu plus tard. Mais pour l'instant, continue à travailler dans mon cœur, je reconnais, je crois. Et faites-lui cette petite prière, ensuite je prierai pour nous tous.